Bernard Sobel, quelle est l'importance pour un homme de théâtre comme vous du Festival d'automne ?
Je crois que dans l'expérience Festival d'automne se concrétise un peu l'importance même de notre métier, de notre, je dirais, de notre profession. Parce que il y a deux aspects dans le Festival d'automne. Il y a l'aspect mode, de choses qu'il faut avoir vues, de must.
Ça peut pas faire de mal.
Ça, c'est un de ces aspects qui est celui qui me ragoûte le moins, disons, d'une certaine façon. Et par contre, je pense que s'il n'y avait pas eu le Festival d'automne, bien des remises en question de ce qu'est notre métier ne se seraient pas faites en France.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Vous êtes tenace, vous avez envie d'une forte rémunération, vous êtes apte à la communication transversale, vous êtes volontaire, vous êtes une force de proposition d'action d'amélioration, vous avez un fort charisme, vous avez envie de gagner, vous avez envie de réussir, vous avez le goût du challenge. Sur la route du succès, ne restez pas au bord du chemin. Venez élargir votre horizon, développez vos talents. Vous avez des qualités d'écoute, vous avez le respect de la hiérarchie, c'est vous le patron. C'était l'avant-propos des lettres de non-motivation de Julien Prévieux, un livre qui se joue des codes de recrutement en entreprise et qui est mis en scène par Vincent Thomasset en novembre au Théâtre de la Bastille à Paris. Ce spectacle figure au programme de la 44e édition du Festival d'automne qui, comme chaque année, fait la part belle aux arts de la scène. Musique, danse, cinéma, performance et bien sûr théâtre. Le Festival d'automne occupera les scènes parisiennes et franciliennes jusqu'à la fin décembre avec des artistes venus des quatre coins du monde. Ce soir, je vous propose de remonter à la source de ces mises en scène et de lire des extraits de certains des textes qui ont été mis à l'honneur. Et pour lire Tchekhov, Strindberg ou encore Sophocle, j'ai le plaisir d'accueillir un ami, le comédien David Clavel, du collectif Les Possédés. Bonsoir David et merci d'être à mes côtés ce soir.
Bonsoir Guillaume.
Continuons à parcourir les textes donc de Julien Prévieux, chômeur enthousiaste et créatif. Comme tout jeune qui se respecte, Julien Prévieux fut un temps à la recherche d'un emploi. Lassé des réponses négatives de rigueur et des formules de politesse, il a décidé de se jouer des codes de la lettre de motivation en refusant d'emblée les postes pour lesquels il postulait. Résultat, sur les 1000 lettres qu'il a écrites et envoyées, quelques courriers savoureux qui se moquent de cet exercice rédactionnel. Voici quelques exemples.
Vous avez moins de 26 ans et vous avez envie de réussir. À l'issue d'un contrat de qualification de 6 ou 9 mois rémunéré 65% du SMIC, choisissez votre métier, nous assurons votre formation. Devenez rapidement responsable enseigne bricolage, responsable de secteur alimentaire ou responsable secteur caisse.
Lettre de Julien Prévieux. Madame, monsieur, je vous écris suite à votre annonce parue dans le journal Le Marché du Travail. J'ai l'impression que vous êtes trompé dans la rédaction de votre offre d'emploi quand vous dites « et vous avez envie de réussir ». Soyez rémunéré à 65% du SMIC pendant 6 ou 9 mois. Je n'ai pas saisi le rapport de cause à effet entre une envie de réussir, apparemment débordante, et un salaire si réduit. Une coquille a dû se glisser malencontreusement dans le texte. À moins qu'un si minuscule salaire donne par lui-même l'envie de réussir en quittant immédiatement son poste. Dans ce cas, il semble que le candidat potentiel préfère choisir d'aller voir vos concurrents avant de rentrer en contact avec votre entreprise. Paradoxe que je vous laisse essayer de démêler. Pour ma part, je refuse votre offre en vous demandant à l'avenir d'éviter ce genre de bévue. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Réponse de la directrice adjointe de l'entreprise en question, 3 jours plus tard.
Monsieur, je vous remercie d'avoir lu avec autant d'attention notre offre parue dans le marché du travail. Je pense que vous n'avez pas saisi l'objectif et le public concerné par cet encart. En effet, cette annonce n'encourage pas les personnes actuellement en poste à démissionner, mais elle cible les jeunes aujourd'hui à la recherche d'un emploi sans ou avec peu d'expérience, qui par le biais d'un contrat de qualification court de 6 à 9 mois pourront accéder à un métier en CDI évolutif. Une chose est certaine, ces candidats potentiels peuvent aller à la rencontre de nos concurrents. Ils n'obtiendront pas plus en termes de salaire. L'avantage, en venant chez nous, c'est qu'ils toucheront 65% pendant 9 mois maximum, alors qu'ailleurs la durée sera d'un an minimum. Je prends bien note que vous ne donnerez pas suite à cette offre, et j'ai le regret de vous annoncer qu'à l'avenir, vous lirez ce même type d'annonce. En espérant que ces explications répondent à vos interrogations, je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées.
Autre annonce.
La ville de Vaucresson, 8400 habitants, recrute pour son service comptabilité-finance un agent administratif comptable et contrôleur au service financier.
Madame, je vous écris suite à votre annonce parue dans le journal Le Marché du Travail. De peur de gagner par hasard un poste dans votre mairie, je me permets de vous signaler que je ne pourrai pas travailler pour vous dans les années qui viennent. Je suis vraiment très occupée en ce moment et je n'ai pas beaucoup de temps libre pour les loisirs culturels du type agent administratif comptable et contrôleur au service financier. Angoissée d'être l'heureux gagnant, ne pouvant profiter du prix, je vous demande de me rayer des listes de votre loterie. J'aurais voulu vous prévenir plus tôt, mais je pensais être trop malchanceux pour gagner quoi que ce soit, jusqu'à ce que mon horoscope m'annonce un niveau de chance rarement atteint dans l'histoire des signes astrologiques. J'espère que ma lettre ne vous arrivera pas trop tard et que nous resterons encore en bons termes, même si je refuse, cette fois-ci, votre générosité. Cela n'est que partie remise. Dans l'attente d'une réponse de votre part, madame, je vous prie de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments distingués. Réponse du cabinet du maire de Vaucresson.
Monsieur. Madame le maire a bien reçu votre courrier et m'a chargé de vous préciser que nous conservons vos coordonnées pour le cas échéant ou pour toute demande utile de la part de la NPE. Je vous prie d'agréer monsieur à l'assurance de mes salutations.
Autre annonce.
Acteur majeur sur le marché du second œuvre bâtiment recrute pour son établissement de Vitry-sur-Seine un coupeur de verre.
Lettre de Julien Prévieux. Madame, Monsieur, je vous écris suite à votre annonce parue dans le Parisien Emploi. J'ai déjà vu des métiers dont la désuétude frôlait l'indécence, mais là vous dépassez des bornes. Vous cherchez un coupeur de verre. On a changé d'époque, monsieur. Vous devez absolument vous moderniser et proposer des métiers qui correspondent à votre temps. Notre société est post-industrielle. Le sillage peut attendre. Pas les produits financiers, ni les loisirs ou les semi-conducteurs. Vous êtes un frein à l'innovation, aussi je me vois dans l'obligation de refuser le métier rétrograde que propose votre entreprise. Réponse.
Monsieur, si votre lettre de non-candidature ne manque pas d'humour, j'ai toutefois peu apprécié que vous puissiez vous permettre de tourner en dérision un des métiers les plus reconnus de notre profession. Permettez-moi à mon tour de vous faire remarquer que le verre qui vous entoure a été façonné, puis posé par des hommes après avoir été produit au cours d'un process de haute technologie. À vous lire, permettez-moi également de vous inviter à cultiver l'humilité, mais gardez votre sens de l'humour. Les savoir-faire professionnels les plus nobles s'accommodent mal de titres ronflants, souvent aussi creux qu'éphémères. Puisque le secteur de notre industrie n'est manifestement pas pour vous séduire, je vous souhaite tout simplement de trouver un métier qui vous corresponde. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Le directeur des ressources humaines.
Autre annonce.
Administrateur de base de données junior, vous assurez l'intégrité des données de la base, le chargement de données provenant d'autres systèmes. Vous aurez pour mission d'administrer les données de la base et de veiller au respect des contraintes du système. Pour ce poste, vous justifiez d'une première expérience similaire significative. Vous maîtrisez les bases de données et le langage SQL. La connaissance d'Oracle et ou d'InformMaker serait un plus.
Madame, Monsieur, je vous écris suite à votre annonce parue dans le journal Carrière et Emploi. Je jure que je n'ai rien fait de mal. Je jure que je n'ai jamais agi dans l'intention de nuire. Je jure que, même si certaines fois j'ai pu faire des erreurs, cela n'était pas de manière intentionnelle. J'ai toujours mené une existence paisible, je paye mes impôts, je ne bois pas plus que de raison. Si cela m'est arrivé, je n'ai pas pris ma voiture pour rentrer chez moi. Je ne me drogue pas, j'aime les animaux, je ne vole pas. J'achète des produits de grande consommation comme tout le monde. Je me connecte souvent à Internet, je regarde la télévision, je fais du sport pour garder la santé. Plus tard, je voudrais un enfant ou deux et un chien. J'ai aussi l'intention de devenir propriétaire foncier et peut-être d'acheter des actions. J'ai des témoins qui m'ont vu ne rien faire. Je ne comprends pas de quoi je suis coupable. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez me punir aux travaux forcés sur des bases de données. Le supplice est démesuré par rapport à mes minuscules erreurs. Quelque anniversaire non souhaité, le gazon du jardin mal tondu, une absence ou deux à l'école non justifiée. Je vous en prie, ne m'embauchez pas. Réponse.
Monsieur, nous vous remercions de la confiance que vous avez manifestée envers notre société en nous proposant votre offre de collaboration. Malgré tout l'intérêt que présente votre candidature, nous sommes au regret de vous informer qu'elle n'a pas été retenue. En effet, si votre formation et votre expérience sont proches des exigences du poste, d'autres candidats y répondent de manière plus précise. En vous souhaitant un rapide succès dans vos recherches, nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit et qu'on n'a pas de fric. Ah, Cédique, je t'écrirai de temps en temps. Toi, tu m'enverras mon virement. Dans mon lit, ah, Cédique, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. Ce sera dément. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Oh non. En m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie, chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier, mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Ah, Cédique, je t'écrirai de temps en temps.
Suivons notre regard sur cette 44e édition du Festival d'automne avec l'un des plus beaux textes de Tchekhov, la dernière de ses pièces publiée en 1904, La Cerisée.
Il est arrivé ce train, Dieu soit loué. Quelle heure est-il ?
Bientôt 2 heures ! Il fait déjà clair !
Oh, mais il a combien de retard ce train ? Au moins 2 heures ! Oh, et moi aussi, bravo, quel animal ! Je viens ici exprès pour les accueillir à la gare et pense, je m'endors. Je m'assois, je m'endors. La guillette, tu aurais pu me réveiller.
Je pensais que vous étiez reparti. Ça y est, je crois qu'ils arrivent déjà.
Non, il y a les bagages, ici et ça.
Tchekhov disait de ce texte que c'était une comédie. Et en effet, il y a une légèreté, une poésie délicieuse dans cette histoire qui parle d'amour et de rêve. La mélancolie pourtant n'est jamais loin. La Cerisaie, c'est le domaine où a grandi la belle Lyubov Andrievna avec son frère Leonid Gaïev. Ce domaine, la datcha de leur enfance, celle que Lyubov a quittée après y avoir vu mourir son fils, est désormais en passe d'être vendue.
Lyubov Andrievna a passé 5 ans à l'étranger. Je ne sais pas si elle a beaucoup changé, mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un de facile, de simple.
Tchekhov dresse le portrait d'une aristocratie sur le déclin, surprise par le réveil capitaliste. Trofimov a beau dire que ce n'est pas grave, que toute la Russie est une cerisaie et qu'il y a beaucoup d'autres endroits splendides sur Terre, les anciens habitants ne peuvent pas se résoudre à perdre une partie d'eux-mêmes. Voici un extrait de l'acte 3. Lyubov Andrievna, tout juste rentrée de Paris où l'homme qu'elle aimait l'a quittée, s'inquiète de ne pas voir revenir son frère. En face d'elle, Trofimov, l'éternel étudiant un peu cynique, tente de lui faire entendre raison. Je lirai Lyubov Andrievna et vous, David, Trofimov. Léonine n'est toujours pas là. Que peut-il faire en ville si longtemps? Je ne comprends pas. Tout est fini là-bas, de toute façon. Ou bien le domaine est vendu, ou bien la vente n'a pas eu lieu. Mais pourquoi nous laisser si longtemps dans l'ignorance? C'est mon destin qui se joue aujourd'hui. Mon destin. Le malheur me paraît tellement invraisemblable que j'en viens même à ne plus savoir que penser. Je m'y perds. Je pourrais me mettre à crier, faire une bêtise. Sauvez-moi, Petia, dites-moi quelque chose. Dites!
Qu'il ait été ou non vendu aujourd'hui le domaine, quelle importance? C'en est fini de lui depuis longtemps, il n'y a plus à revenir en arrière, tous les ponts sont coupés. Apaisez-vous, ma bonne amie, il ne faut pas se leurrer, il faut, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, regarder la vérité en face.
Quelle vérité? Vous, vous voyez où sont la vérité et le mensonge, et moi, à croire que j'ai perdu la vue, je ne vois rien. Vous résolvez tous les problèmes avec courage, mais dites-moi, mon bon, n'est-ce pas parce que vous êtes jeune que vous n'avez pas eu le temps de souffrir encore d'un seul de vos problèmes? Vous regardez devant vous avec courage, mais n'est-ce pas parce que vous ne voyez, parce que vous n'entendez rien de terrifiant, parce que la vie reste encore voilée à votre jeune regard? Vous êtes plus courageux, plus honnête, plus profond que nous tous, mais réfléchissez un peu, montrez ne serait-ce qu'une once de générosité, épargnez-moi. Moi, je suis né ici. C'est ici qu'ont vécu mon père et ma mère, mon grand-père. J'aime cette maison. Je ne comprends pas ma vie sans la cerisaie. Et s'il faut décidément vendre, eh bien qu'on me vende avec la cerisaie. Mon fils s'est noyé ici. Ayez pitié de moi, vous, un homme bon, gentil.
Vous le savez bien, je compatis de toute mon âme.
Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. J'ai un poids sur le cœur aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer. Ici, tout se fatra, mon âme tremble au moindre bruit, je tremble tout entière, mais je ne peux pas me retirer chez moi, j'ai peur, toute seule, dans le silence. Ne me condamnez pas, Pétien, je vous aime, comme si vous étiez de ma famille, je vous donnerais bien volontiers la main d'Ania, mais seulement, mon bon, il faut faire vos études, obtenir vos diplômes, vous ne faites rien, le destin vous ballotte d'un endroit à un autre, c'est tellement étrange, n'est-ce pas? Oui, mais il faut faire quelque chose avec votre barbe, qu'elle pousse tout de même. Vous me faites rire.
Je ne souhaite pas être bel homme.
C'est un télégramme de Paris, j'en reçois tous les jours. Hier, aujourd'hui, ce forcené, il est à nouveau malade. Il va mal à nouveau. Il demande pardon, il me supplie de revenir. Et c'est vrai, il faudrait que j'y aille à Paris, pour être un peu à son chevet. Vous prenez l'air sévère, Pétia, mais que puis-je faire, mon bon? Que puis-je y faire? Il est malade, il est seul, malheureux. Qui pourrait veiller sur lui là-bas, l'empêcher de faire des bêtises, lui donner des remèdes à l'heure? Et à quoi bon mentir ou se taire? Je l'aime, c'est évident, je l'aime. Je l'aime. C'est la pierre à mon cou, je me noie avec elle, mais cette pierre, je l'aime, et je ne peux pas vivre sans elle. Ne pensez pas à mal, Pétiane. Ne me dites rien, ne dites rien.
Pardonnez-moi d'être sincère, je vous en supplie, mais... Mais il vous a dépouillé.
Non, il ne faut pas dire ça.
Mais c'est une canaille. Vous êtes la seule à ne pas le savoir. C'est une canaille minable, un moins que rien.
Vous avez 26 ans ou 27 ans, mais vous êtes toujours un collégien de troisième.
Tant pis.
Faut être un homme, à votre âge. Faut comprendre les gens qui aiment. Puis il faut aimer soi-même. Il faut tomber amoureux. Non. Vous n'avez pas de pureté. Vous n'êtes qu'un petit tartuffe, un phénomène juste bon à faire rire. Un monstre.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Je suis au-dessus de l'amour, dites-vous. Vous n'êtes pas au-dessus de l'amour, simplement vous êtes impropre à rien. Il faut avoir des maîtresses à l'âge que vous avez.
C'est horrible, qu'est-ce qu'il dit? C'est horrible. Je ne peux pas, je m'en vais, tout est fini entre nous.
Oh, Pétia, attendez. Vous me faites rire, je plaisantais. Pétia!
Si les personnages de Tchekhov s'aveuglent sur leur destin, découvrons désormais un personnage mythique qui incarne le refus de voir la vérité. Il s'agit de la figure d'Œdipe, ce roi parricide et incestueux qui s'ignore, dont l'histoire a traversé les siècles, inspirant à la fois le théâtre, l'art et la psychanalyse. Cet hiver, c'est le grand metteur en scène italien Romeo Castellucci qui revisite le personnage d'Œdipe à travers une lecture très personnelle de la pièce de Sophocle, elle-même revisitée par l'écrivain allemand Friedrich Hölderlin. La pièce sera présentée au Théâtre de la Ville du 20 au 24 novembre. Voici un extrait d'Œdipe le tyran de Sophocle, pièce emblématique, selon Hölderlin, de la monstruosité des rapports entre les hommes et les dieux. Nous sommes au début de l'intrigue. Pour sauver la ville de Thèbes, victime d'une épidémie de peste, Œdipe part à la recherche de l'assassin de son prédécesseur, le roi Laios. Mais il refuse les révélations du divin Tirésias et cède à la fureur. Traduction de Bernard Chartreux aux éditions théâtrales. Je ferai donc Œdipe et vous Tirésias, David. Ô toi à qui rien n'échappe, Tirésias, ce qui s'enseigne et ce qui reste secret, ce qui est du ciel et ce qui est de la terre, même si tu n'y vois pas, tu sais de quelle maladie souffre notre ville. Tu sais que le seul remède contre cette maladie serait de découvrir les assassins de Laios, de les tuer ou de les chasser de cette terre. Ne nous refusons pas les présages des oiseaux, ni toute autre voie de divination. Sauve-toi, sauve cette ville, sauve-moi, sauve-nous de toute la souillure du mort. Nous sommes à ta merci. Pour un homme, se rendre utile, selon sa force et son talent, c'est la plus belle des tâches.
Oh, il est terrible de savoir quand ce savoir est inutile à celui qui sait.
Qu'y a-t-il ? À peine arrivé, tu te décourages ?
C'est que tous, vous ne savez rien. Mais moi, pour ne pas avoir à dire le malheur, je cache mon malheur.
Que dis-tu ? Tu te tairas volontairement ? Ô traître de traître, vraiment, tu m'étreins un roc en colère. Tu ne veux donc pas parler ?
La colère, tu me la reproches, et la tienne qui habite en toi, tu ne la vois pas et tu me blâmes. Les choses arriveront même couvertes par mon silence.
Donc ces choses qui arriveront, tu dois me les dire.
Je n'en dirai pas plus. Là-dessus, si tu y tiens, donne libre cours à ta plus sauvage colère. Car tu es la souillure impie de cette terre.
Quoi ? Quoi, tu oses prononcer ce mot ? Tu crois qu'il est sans danger pour toi ?
Tu n'as donc pas compris où tu cherches à me faire parler ? Je dis que tu es le meurtrier de l'homme, celui que tu recherches. Veux-tu que je continue pour augmenter ta colère ? Je dis qu'à ton insu, avec ceux qui te sont très chers, tu as un commerce affreux et que tu ne vois pas où tu en es du mal.
Crois-tu que tu t'amuseras longtemps à parler ainsi ? Toi qui es aveugle des oreilles, de l'esprit et des yeux ?
Malheureux que tu es, tu lances des injures que personne bientôt ne se privera de te lancer.
De Créon ou de toi, ces inventions ?
Créon n'est pas ton malheur, c'est toi qui l'es pour toi. Tout tyran que tu sois, j'ai le droit de te répondre en égal. Point par point, ce pouvoir est à moi, car je ne suis pas ton esclave, mais celui de Phoïbos. Je te le dis, puisque tu as insulté un aveugle. Toi, tu as des yeux, mais tu ne vois pas où tu en es du mal, ni où tu habites, ni avec qui tu vis. Sais-tu de qui tu viens, et qu'à ton insu, tu es l'ennemi des tiens sous terre et sur la terre ? Et que la malédiction au pied terrible de ta mère et de ton père te chassera un jour de cette terre ? Clairvoyant aujourd'hui, demain plongé dans les ténèbres. Pas un refuge alors qui ne résonne de tes cris. Lorsque tu auras compris quel mouillage infect pour ta maison était cet hymen où t'a conduit ton destin, et tu n'aperçois pas la foule des autres malheurs qui vont t'égaler toi-même à tes propres enfants. Après cela, et Créon et ma bouche, couvre-les de boue, car aucun mortel n'aura jamais été anéanti plus horriblement que toi.
Est-ce qu'on peut supporter d'entendre cela ? Fiche-moi le camp, plus vite, demi-tour, retourne d'où tu viens, quitte cette maison.
Je suis donc né fou selon toi. Pour les parents qui t'ont fait naître, j'étais doué de raison.
Quels parents? Attends, de quel mortel suis-je né?
Ce jour va te faire naître et t'anéantir.
Tout ce que tu dis n'est qu'obscurité, énigme.
N'es-tu pas le meilleur pour les débrouiller?
N'insulte pas les actes où tu découvriras ma grandeur.
Je m'en vais, mais ce pourquoi je suis venu, je ne crains pas de te le dire en face. Tu ne peux rien contre moi. Voici, cet homme que tu cherches depuis longtemps, avec menaces et proclamations sur le meurtre de Laio, cet homme est ici. Étrange, métèque à ce qu'on dit, mais plus tard on verra qu'il est thébain de naissance et qu'il ne s'en réjouira pas. Et on verra qu'il est lié à ses propres enfants, lui-même leur frère et leur père, et que de la femme dont il est né, il est à la fois le fils et l'époux, et qu'il est le rival et le meurtrier de son père. Va donc méditer cela. Et si tu me prends à mentir, tu pourras dire que je n'entends rien à la divination.
Évoquons à présent la figure du double à travers l'une des pièces les plus célèbres de l'auteur suédois August Strindberg. Écrite en 1898, à l'issue d'une grave crise personnelle qui empêchait le dramaturge d'écrire, Le chemin de Damas est l'histoire de la conversion d'un écrivain maudit. Dans l'adaptation qu'en livre le metteur en scène Jonathan Chatel, l'inconnu se prénomme Andreas, prénom universel qui désigne l'humanité en quête de sens. Voici deux extraits de cette fresque existentielle qui se veut l'autoportrait et l'autocritique d'un homme en chute libre. Dans la scène suivante, à l'ironie grinçante, deux hommes se font face, l'inconnu et le mendiant, comme deux visages de la misère, à la frontière de la folie. La pièce Andreas, dans une mise en scène donc de Jonathan Chatel, avec Thierry Reynaud, Nathalie Richard, Pierre Beau et Pauline Accard, se joue actuellement jusqu'au 15 octobre au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers. Traduction d'Alfred Jolivet et Maurice Gravier, édité par L'Arche. Je lirai Andreas et vous, David, le mendiant. Qu'est-ce que vous ramassez là, mendiant?
D'abord, qu'est-ce que vous me voulez? Et puis, je ne suis pas un mendiant. Est-ce que je vous ai demandé quelque chose?
Dans ce cas, excusez-moi, mais il est bien difficile de juger les hommes sur l'apparence.
Sûrement, c'est difficile. Pouvez-vous, par exemple, deviner qui je suis?
Non, je ne peux pas et je n'y tiens pas non plus. Pour vous le dire net, ça ne m'intéresse pas.
On ne peut jamais savoir d'avance. L'intérêt vient généralement après, quand il est trop tard. Virtus pos numus.
Quoi, mendiant, la langue des Romains vous serait connue?
Tiens, tiens, voilà l'intérêt qui s'éveille. Moi, j'ai réussi dans toutes mes entreprises, pour la bonne raison que je n'ai jamais rien fait. Je pourrais peut-être m'appeler Polycrate, l'homme à l'anneau. Savez-vous que j'ai obtenu tout ce que j'ai désiré dans la vie? Je n'ai jamais rien désiré, et fatigué de mes succès, j'ai jeté mon anneau. Maintenant, sur mes vieux jours, je le regrette et je cherche l'anneau dans les ruisseaux des rues. Et comme cette recherche a chance de durer assez longtemps, je ne dédaigne pas, à défaut d'anneau d'or, de ramasser quelques mégots.
Je ne sais pas si le mendiant cultive la satire ou s'il manque un peu de suite dans ses propos.
Ah oui, je n'en sais rien non plus.
Mais savez-vous qui je suis?
Pas loin du monde et ça ne m'intéresse pas.
L'intérêt vient généralement après. Un nom, par exemple, voilà que vous me faites reprendre vos propres paroles. C'est comme si je ramassais les mégots d'autrui, poire.
Et vous ne voulez pas fumer après moi?
Tiens, quelle cicatrice avez-vous là au front?
Elle me vient d'un parent très proche.
Non, je commence à avoir peur. Laissez-moi vous toucher pour voir si vous existez réellement. Oui, il est bien réel. Auriez-vous, monsieur, l'obligeance d'accepter une petite somme d'argent contre la promesse d'aller chercher l'anneau de Polycrate à l'autre bout de la ville? Pos numus virtus, la vertu après l'argent. Oh, voilà encore que je remâche vos mots. Allez-vous-en, allez-vous-en.
Je vais m'en aller, mais vous me donnez vraiment trop. Tenez, je vous en rends les trois quarts. Ainsi, nous ne devrons l'un à l'autre qu'un cadeau d'ami.
Un cadeau d'ami, suis-je donc votre ami?
En tout cas, je suis le vôtre, et quand on est tout seul au monde, il ne faut pas se montrer si regardant.
Permettez-moi en guise d'adieu de vous adresser ce petit mot, la ferme.
Volontiers, volontiers. Mais quand nous nous rencontrerons de nouveau, j'aurai un mot de bienvenue qui vaudra celui-là.
Poursuivons notre route sur le chemin de Damas, voici un second extrait de la célèbre pièce de Strindberg. Après bien des péripéties, au cours desquelles Andreas a voulu s'enfuir avec la femme d'un médecin, le voici qui croise à nouveau le chemin du mendiant. Même paysage que précédemment dans sa vêture d'automne. Le mendiant est assis près d'une chapelle expiatoire. Il porte des pipeaux et une cage contenant un sansonnet. Dites donc, mendiant, avez-vous vu passer une dame en costume de voyage?
Des dames, j'en ai vu 500, mais je vous prierai sérieusement de ne plus m'appeler mendiant quand vous m'adressez la parole, car j'ai trouvé du travail.
Ah tiens, c'est vous. À quoi travaillez-vous ?
J'ai un sansonnet qui siffle et qui parle.
C'est-à-dire que c'est lui qui travaille ?
Mais oui, je suis devenu mon propre maître.
Vous capturez aussi des oiseaux ?
Vous parlez des pipeaux ? Non, non, c'est seulement pour la galerie.
Alors vous vous attachez aux apparences ?
À quoi d'autre pourrait-on s'attacher ? Puisque ce qui est à l'intérieur n'est que faribole.
Ainsi se résumerait toute votre philosophie de la vie.
Toute ma métaphysique. Cette manière de voir vous semblera certainement un peu démodée, mais...
Parlez un peu sérieusement, dites-moi quelque chose de votre passé.
Bah, à quoi bon remuer ce vieux fatras ? Regardez devant vous, monsieur. Toujours devant vous. N'allez pas croire que je sois toujours aussi en train. Non, c'est seulement quand je vous rencontre, car vous êtes bigrement cocasse.
Comment faites-vous pour rire avec toute cette vie gâchée derrière vous ?
Non mais voilà qui est indiscret. Si vous n'êtes pas capable de rire de la misère, même pas de celle d'autrui, la vie est une triste affaire. Dites donc, en suivant ces ornières dans la boue, vous arriverez à la mer, c'est là que le chemin finit. Asseyez-vous, reposez-vous et vous verrez les choses autrement. Ici, il y a tant de tristes souvenirs qui empêchent votre pensée de s'envoler vers la chambre rose où vous attend votre dame. Vous n'avez qu'à suivre l'ornière. Suivez l'ornière. Si vous trouvez de temps à autre le chemin un peu trop fangeux, soulevez donc vos ailes et franchissez les bourbiers. À propos d'ailes, j'ai entendu jadis un oiseau chanter l'histoire de Polycrate. Ce tyran avait reçu en partage toute la magnificence du monde, mais il ne savait qu'en faire. Alors il se met à annoncer qu'il est en train de créer un grand néant à partir du vide universel. Je n'oserais pas prétendre que c'était vous si je n'en étais pas tellement sûr que je pourrais le jurer. Je vous ai une fois demandé si vous saviez qui j'étais, et vous m'avez répondu que cela ne vous intéressait pas. Un jour, je vous ai offert par récompense mon amitié, vous l'avez refusé avec ce simple petit mot, la ferme. Mon Dieu, je ne suis ni susceptible ni rancunier, et je vous donne pour viatique ce bon conseil, suivez l'ornière.
Qui lit mes secrètes pensées ? Qui fouille jusqu'au plus profond de mon âme ? Qui donc me persécute ? Pourquoi me persécutes-tu ?
Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Non, je ne veux pas être méchant. Suivez mon conseil. Regardez dans la boue du chemin. Suivez l'ornière.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
You never worship. You never worship.
Après le chemin de Damas de Strindberg, suivons en conclusion le cheminement d'une autre pensée, celle du poète Paul Celan.
Landeinwärts, hierher, verwehter Strandhafer, bläst Sandmuster über den Rauch von Brunnengesängen.
Le 22 octobre 1960, Paul Celan reçoit le prix Büchner qui récompense les œuvres de langue allemande. Découvrons un extrait de son discours où il rend hommage au dramaturge Georges Büchner et livre une définition passionnée de la poésie.
Ein Ohr abgetrennt.
Car pour lui, la poésie est cette ligne méridienne qui trace un lien entre les époques, les lieux, les hommes.
Lauscht. Ein Aug in Streifen geschnitten wird all dem gerecht.
Voici un passage de ce manifeste littéraire intitulé « Le Méridien » qui fera l'objet d'une adaptation sur scène cet hiver, du 25 novembre au 27 décembre, au Théâtre du Rond-Point, par un autre grand amoureux des mots, le comédien Nicolas Bouchot, dans une mise en scène d'Éric Didry. Écoutons ce texte qui relève à la fois du traité d'esthétique et de la pure fantaisie, qui peut se lire comme un dialogue à deux voix. Extrait de la traduction d'André Duboucher aux éditions Mercure de France. L'art, oui, rappelez-vous, une sorte de pantin, de créature sans postérité.
L'art fait irruption, l'art surgit en des temps autres, certes, à découvert de nouveau, présenté par un batteleur de foire. L'art se découvre sous la forme d'un singe, à sa veste et sa culotte, nous l'avons aussitôt reconnu.
Ah, l'art. Je reste, voyez-vous, suspendu à ce mot. On peut, j'en ai conscience, déchiffrer ce mot de tant d'autres manières. On peut poser des accents divers, aigus de l'aujourd'hui, graves de l'historique, circonflexes de l'éternel. Je pose, il ne me reste aucun recours, je pose l'aigu.
Ah, l'art. L'art possède avec son pouvoir de mutation le don aussi d'ubiquité. On peut le retrouver dans Lenz, et je tiens à le souligner dans la mort de Danton de façon épisodique.
Voici poser l'aigu. Ah, l'art, je le cherche ici également dans Lenz. Büchner n'a que parole de dédain pour l'idéalisme et ses pantins. Il leur oppose la présence naturelle, la créature même.
Je pense à Büchner lui-même, celui dont l'art obsède le regard, jamais ne garde conscience de soi. L'art déporte le moi au plus loin, dans une direction délibérée, distance délibérée, chemin délibéré.
Et la poésie ? La poésie qui, par force, s'enfonce dans le chemin, pourtant, de l'art.
Peut-être. Ce n'est là qu'une question. Peut-être la poésie comme l'art procède-t-elle avec son moi oublieux de lui-même, vers ces régions de l'insolite et de l'étrange, pour s'affirmer où ? En quel lieu ? Sous quelle forme ?
L'art, alors, serait un chemin que la poésie parcourt, rien de moins, rien de plus. Je sais qu'il est d'autres chemins, plus courts, mais la poésie, elle aussi, plus d'une fois nous devance, brûle nos étapes.
Je cherche ici encore, dans le poème de Büchner, cet élément singulier. Je cherche Lenz lui-même, en tant que personne. Je cherche une figure, la sienne.
À présent, découvrirons-nous peut-être le lieu où l'insolite se poste, ce lieu où la personne se dégage, comme étrangère à elle-même. Allons-nous découvrir tel lieu, tel pas ?
Seulement, il lui était désagréable parfois de ne pas pouvoir marcher sur la tête. Voilà Lenz. Le voilà, je crois, lui, à son pas. Lui.
Seulement, il lui était désagréable parfois de ne pas pouvoir marcher sur la tête. Qui marche sur la tête a, en vérité, le ciel pour abîme au-dessous de soi.
On ne se prive pas aujourd'hui de reprocher à la poésie son obscurité. Permettez-moi abruptement là-dessus de citer ici un mot du philosophe Pascal. Ne nous reprochez pas le manque de clarté, nous en faisons profession.
Poésie, soit d'aventure détour du souffle. Qui connaît les détours que la poésie parcourt ? Peut-être le poème a-t-il là trouvé corps.
Mais le poème parle aussi. De la date qui est la sienne, il préserve la mémoire, mais il parle. Il parle, certes, toujours de la circonstance unique qui, proprement, le concerne.
Ce « toujours encore » ne sera jamais cependant qu'un parler. Ce « toujours encore » se découvre dans le seul poème de celui qui n'oublie pas qu'il parle dans l'angle d'inclinaison de son existence. Le poème serait dès lors parole d'un seul devenu figure et du plus intime aspirant à une présence. Le poème est solitaire.
Mais le poème n'est-il pas manifeste ici, dans le secret de la rencontre ? Le poème est tendu vers un autre, éprouve la nécessité d'un autre, une nécessité du vis-à-vis. Il le débusque sans trêve, s'articule allant à lui, il chemine vers l'autre.
Le poème fait face à ce qui apparaît, il interroge et interpelle ce qui apparaît. Il devient dialogue, dialogue éperdu.
Le poème et l'homme et la créature.
Quelles questions, quelles injonctions. Il est temps de faire demi-tour. Parvenu à la fin, je suis au commencement de nouveau. Élargissez l'art. Question qui déferle sur nous de tout son élan de toujours. Je m'étais rendu auprès de Büchner et j'ai cru l'y retrouver. Élargir l'art. Non. Porte-toi plutôt, avec l'art, au plus serré de toi-même. Puis dégage-toi. Je viens ici encore de parcourir ce chemin. Ce fut un cercle, un détour du souffle. La rencontre avec Büchner m'a mise en présence de moi-même. Où va-t-on en vérité ? Cette foulée n'est-elle qu'acheminement et détour de toi à toi ? Mais ce sont en même temps, parmi d'autres chemins, chemins aussi où la parole trouve voix. Ce sont rencontres, chemin d'une voie vers un toi vigilant, tronçon d'une existence peut-être à venir, un projet de soi sur soi, sorte de retour à l'endroit natal. Je le cherche d'un doigt mal assuré, anxieux sur la carte, carte d'enfant à dire vrai, la seule que je possède. De ces lieux d'enfance, aucun ne se laisse situer. Ils paraissent absents, mais je sais où, à cette heure, ils doivent surgir finalement. Et je découvre quelque chose. Je découvre quelque chose, comme la parole, immatérielle, mais terrestre, de ce sol, chose ayant forme de cercle et qui, passant de pôle en pôle, fait sur moi retour. Je découvre un méridien. Auprès de vous et de Georges Büchner, j'ai cru tantôt l'effleurer.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia, avec Eric Boisset à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Valérie Bourg. Un grand merci à vous, David Clavel, et à Christine Delterme du Festival d'Automne. La semaine prochaine, place à la philosophie, assez en écho avec cette sélection du Festival d'Automne, en compagnie de Cynthia Fleury et des Irremplaçables. Bonne soirée.
C'était Guillaume Gallienne, ça peut pas faire de mal, à suivre dans quelques instants, tout juste après le journal de 19h. La vie est un jeu avec Daphné Roulier. Elle reçoit aujourd'hui la journaliste Florence Aubenas.